Philippe, métaphysique à Fribourg, le 16 novembre, quatrième cours.
Si l'abstraction signifie le besoin d'intelligence d'analyser, n'est-ce pas la preuve qu'on ne peut avoir l'intuition de l'être, puisque toute intention n'implique aucune analyse. Puisque toute intuition n'implique aucune analyse. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je vous disais que l'intuition de Maritain, moi je la prends. Il y a quelque chose de juste, on sent bien qu'il y a quelque chose de juste, mais il faut bien le situer. Alors, il faut le situer non pas par rapport à l'être, mais par rapport à la diversité de l'unité. Mais c'est ce lien entre ceci et la vache existe, j'existe. C'est tout à fait la même chose que la vache. Et pourtant, nous existons. Oui, nous sommes dans le même bain d'existence. La table existe, encore d'une autre manière. Alors il y a quelque chose qu'on saisit là de l'être qui est relié diversement avec les différents ceux-ci, et puis qui est en même temps toujours l'être. Alors on comprend très bien, c'est cette intuition-là qui est. Ce que l'intuition porte, je crois que c'est ce qu'on doit toujours dire sur un rapport. Alors l'être en lui-même n'est pas un rapport. L'être en lui-même, c'est une super signification. C'est une super signification, c'est une signification qui n'est pas la signification de ce que représente la table, c'est autre chose. Puisqu'il y a une diversité dans cette signification. Mais faisons attention, la diversité, c'est parce que l'être est réalisé diversement. La réalisation de l'être n'est pas l'être. Mais l'être est réalisé diversement. Donc la diversité n'est pas dans l'être. Alors parler d'intuition de l'être risque toujours de comprendre qu'il y a à l'intérieur même de l'être une diversité. Du reste, si vous êtes attentif à lire Maritain, les sept leçons sur l'être, vous voyez bien qu'au fond, Maritain regarde plus l'idée d'être que ce qui est. Et c'est ça qui est intéressant à regarder, parce que c'est quand même quelqu'un qui a le souci de comprendre saint Thomas d'une manière profonde, essayer de comprendre, puis en même temps qui veut parler un langage qui est plus proche de nous, et dans ce langage qui est plus proche de nous, essayer de comprendre comment on peut dire cela. Alors je crois qu'il faut saisir ces différents moments, jugement d'existence, la diversité des jugements d'existence, à l'intérieur cette intuition de l'être, d'où l'admiration et l'interrogation, ce que je vous donnais tout à l'heure. Bon. Alors c'est très vrai que du fait même qu'il y a abstraction, et c'est vrai qu'il y a abstraction, quand l'intelligence pose qu'est-ce que c'est que l'être, l'être est pris d'une manière substantielle. Alors que l'être n'est pas pris d'une façon substantielle, selon les réalités que vous existez. Que c'est la forme infinitive. Vous affirmez que la classification du réel en catégories est d'ordre pré-philosophique. Oui, je l'affirme en raison du fait même que nous sommes dans l'ordre de la description. Vous décrivez la réalité. C'est pour ça que je dis que c'est pré-philosophique, parce que c'est descriptif. Tout ce qui est descriptif est pré-philosophique. Mais cette division peut-elle se justifier autrement qu'à l'intérieur d'une métaphysique? Alors, ça, c'est autre chose. Justification, ça, c'est un aspect critique. C'est l'aspect critique qui, au terme, justifiera ça. Ça, c'est très vrai. Je pourrais justifier ça, au terme. Mais ce n'est pas à l'intérieur de la métaphysique, vous voyez, parce que la métaphysique ne justifie pas la question du temps et du lieu. C'est la physique. Donc, c'est à l'intérieur d'une philosophie réaliste. D'une certaine manière, les catégories regardent toute la philosophie. C'est pré-philosophique. Je n'ai pas dit pré-métaphysique. J'étais pré-philosophique. Donc c'est à l'intérieur de toute la philosophie que d'une certaine manière je pourrais justifier les catégories. Et c'est vrai. Je devrais, dans une critique, justifier les catégories. Et montrer qu'il n'y en a pas d'autres. Qu'il y a les 10 catégories. Et que ces 10 catégories regardent l'être et divisent l'être. Divise l'être, c'est une division dans l'ordre de l'être. Est-il même possible de découvrir les différents prédicaments sans métaphysique? Oui, je peux les découvrir sans métaphysique. voyez, je découvre le temps sans la métaphysique. Je découvre le lieu sans la métaphysique. Je découvre l'action et la passion sans métaphysique. C'est une manière, du reste, pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est la manière dont je connaissais quelqu'un qui disait la seule manière d'introduire quelqu'un en métaphysique, c'est de partir des catégories. Je veux bien, ça pourrait être une manière d'introduire en métaphysique. Oui, c'est d'essayer de comprendre, regarder la réalité, mais oui, il y a un sujet autonome. Et puis, il y a le fait que j'attribue en disant il est homme, il est animal, des choses essentielles. Puis je dis sa quantité. Oui, c'est très facile de voir ça comme quelque chose qui est indépendant. C'est beaucoup plus facile que la métaphysique. Tout le monde peut comprendre les 10 catégories d'Aristote. Tout le monde peut comprendre les 10 prédicaments d'Aristote. Il suffit tout simplement de savoir ce que ça veut dire. C'est tout. C'est la signification, mais c'est très simple pour grand effort à faire ça. Tandis que dès qu'on entre en métaphysique, il y a un petit effort. Il faut changer de vitesse. Et ça monte, c'est dur. Donc, est-il même possible de découvrir les différents prédicaments sans métaphysique ? J'ai dit oui. On peut découvrir les 10 prédicaments sans métaphysique. Évidemment, pour les comprendre parfaitement, la métaphysique va m'aider. Et c'est pour ça que je ne peux pas les critiquer sans la métaphysique. Ça, ok. Parce que c'est descriptif. Par exemple, l'oubli. Et l'accident qui résulte d'un corps du seul fait qu'il est dans un lieu. N'est-ce pas le terme d'une recherche philosophique ? Vous voyez, alors vous avez dit recherche philosophique là. Oui, c'est la philosophie de la nature, c'est très vrai. Le temps. Mais indépendamment de la philosophie, pour savoir ce que c'est que le temps, ça il faut la philosophie de la nature. Mais pour savoir que je suis dans le temps, vous croyez que les contemporains, quand à Fribourg, ils se réunissent pour faire une promenade, ils font de la philosophie. Non, non, ils sont contemporains. Ils sont sur le registre, ils sont liés à la même date, à la même année. Ils n'ont pas besoin de faire de la philosophie pour savoir qu'ils sont contemporains. Ils n'ont pas besoin de faire de la métaphysique pour savoir qu'ils sont nés dans le même lieu. Ils sont originaires d'eux. Pas besoin de métaphysique pour savoir, pas besoin de philosophie, c'est descriptif. Vous êtes dans le temps et le lieu, quoi. Les catégories temps et lieu, c'est des catégories de bon sens. Tout simplement, c'est comme ça que nous distinguons les uns des autres. C'est très clair. Alors quand je veux savoir qu'est-ce que c'est que le lieu, qu'est-ce que c'est que le temps, alors là, oui, la philosophie agit. Oui, mais c'est l'interrogation, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le lieu ? Mais dans la catégorie, je décris tout simplement le fait d'être le lieu, le temps. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pré-philosophique, c'est descriptif. Oui, c'est tout à fait... Les étangs, vous savez, à l'armée on fait les étangs. Les étangs. Alors c'est exactement ça. Ça c'est les étangs au niveau philosophique. Un étang au niveau philosophique, c'est faire exactement ça. Je pourrais demander avant de faire l'état de tous les étudiants de philosophie. Alors je prendrai, puisque nous sommes en philosophie, je prendrai faites les états selon les 10 catégories. Et puis on donnerait ça à la SECA, on donnerait ça à la chancellerie, on donnerait ça à la secrétaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est pas comme ça qu'on peut dire. Ah oui, c'est les 10 catégories d'Aristote, on peut donner exactement comme ça la situation de chacun. Et c'est très bien, on donnerait beaucoup, beaucoup mieux la situation de chacun si on prenait les 10 catégories d'Aristote. Parce que selon les 10 catégories d'Aristote, vous êtes vraiment bien situé. Vous êtes bien situé. Lieu, temps, quantité, qualité... Alors il manque religion, mais c'est dans l'avoir. Dans l'avoir, vous pourriez la religion, parce que vous sauriez que vous êtes relié à telle ou telle liturgie. Vous voyez, vous participez à telle ou telle liturgie, c'est l'avoir, ça fait partie de l'avoir, ça. C'est vrai, quand vous avez la catégorie avoir, il y en a beaucoup de l'avoir. Il y a des quantités de choses qui font partie de l'avoir. Alors on pourrait faire une subdivision de l'avoir, vous voyez. Et la phénoménologie d'aujourd'hui nous aiderait énormément à donner la subdivision, parce que la phénoménologie est au niveau de l'avoir. C'est les catégories de l'avoir, la phénoménologie, vous voyez ? C'est ça qui est intéressant à voir. C'est les catégories de l'avoir. Et alors, à l'égard des catégories de l'avoir, vous avez toute la manière dont on vous donne au point de vue phénoménologique. Ça c'est intéressant à préciser. Donc, ce sont des sous-catégories, puisque c'est celle de l'avoir. Bon. Nous allons maintenant continuer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors ici, je suis obligé de rappeler quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que d'autres ne connaissent pas. Les diverses interrogations. C'est important. Parce que quand je pose « qu'est-ce que c'est que l'être ?», il y a une interrogation particulière. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il faut voir qu'il y a de fait diverses interrogations. C'est encore Aristote qui a découvert ça. Socrate interrogé. Platon, au début de ses dialogues, interroge beaucoup. À la fin de ses dialogues, il n'interroge plus beaucoup. J'avais une étudiante dans le temps sur cette piste, c'est comme mémoire de licence, de voir comment au début, Platon interroge. Et à la fin, Platon n'interroge plus. Et Merleau-Ponty dit, l'idéaliste n'interroge plus. Il ne le dit pas à cause de Platon, mais c'est intéressant. Et c'est vrai, l'idéaliste n'interroge plus. Le gosse interroge. Arrivé à un certain âge, on n'interroge plus. Pour des quantités de motifs. Hein. Pas toujours parce qu'on est idéaliste. C'est parce que nous avons... On trouve que c'est pas la peine de montrer notre ignorance à tout le monde. C'est pour ça qu'on n'interroge pas. Si on va poser... C'est vrai, c'est alors qu'on a un peu de pudeur, et la pudeur gagnant, ça arrête les interrogations de l'intelligence. Tandis qu'un gosse mouche, il devient des gars, il s'affuse, il pose des interrogations tout le temps, et puis peut-être il s'est un peu lassé parce qu'on lui a pas répondu. On lui a très mal répondu. C'est très vrai, si on répondait toujours parfaitement au gosse, on deviendrait très intelligent. Parce que le gosse nous obligerait d'aller jusqu'au bout. Je l'ai dit une fois à quelqu'un, vous savez, un gosse de 4 ans qui pose à sa mère « Qu'est-ce que c'est que l'éternité ?» Il avait posé ça à sa mère quand sa mère lui servait la soupe. Alors sa mère a cru que c'était la manière très élégante d'éviter de prendre la soupe. « Qu'est-ce que c'est que l'éternité ?» Parce que la soupe, elle est dans le temps. C'est bien évident, n'est-ce pas ? Et elle est située à tel endroit. Alors « Qu'est-ce que c'est que l'éternité ?» Alors sa mère dit, mange ta soupe, on verra après. Et puis il restait lui avec cette interrogation. Alors la mère est partie, on dit, reviens voir. Puis au bout d'un certain temps, la mère revient, puis il voit qu'il prend sa soupe. Alors la mère lui dit, alors tu as trouvé ? Alors le gosse prend son rond de serviette, puis il dit, l'éternité c'est ça. Il avait découvert que l'éternité c'était le rond. Le cercle. C'est toujours l'image de l'éternité. Parce qu'il n'y a plus de point. Les points de départ et le terme qui se rejoignent. C'est ça l'éternité. Quand le point de départ et le terme se rejoignent. Le temps, c'est quand le point de départ et le terme sont différents. Et qu'il y a entre deux un espace. Il y a entre deux une succession. Tandis que l'éternité, c'est ça. C'est une image, évidemment. C'est pas du tout encore l'intuition métaphysique. Mais c'est une image. C'est une perception très très belle. Hein. On perçoit, l'éternité c'est ça. On perçoit. On ne dit pas encore ce que c'est. Mais c'est vrai que le gosse pose des questions et il cherche. Au bout d'un certain temps, quand on ne cherche plus, on ne pose plus de questions. Et l'idéaliste qui ne cherche plus, parce qu'il a tout, alors il ne pose plus de questions. La dialectique ne se développe pas par l'interrogation. La dialectique se développe par la poussée intérieure de la dialectique, c'est pas l'interrogation. C'est très très différent. Tandis qu'une pensée inductive se développe par le point de vue de l'interrogation. Alors, il faut donc saisir qu'il y a divers types d'interrogations. Les divers types d'interrogations, Aristote les énumère de cette manière. Je crois que c'est intéressant à noter. En quoi ? Et avant, en quoi, qu'est-ce ? Qu'est-ce, c'est le fameux type esti des Grecs. Mais le ti esti des Grecs, comme il est la première interrogation, sert un peu pour tout. Ti esti. Et les Grecs modernes, c'est forcé, ils sont dans la philosophie analytique, c'est ti, ti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont laissé tomber le est. Mais le philosophe le restitue. N'est-ce pas ? C'est, oui, on comprend. Esti, c'est est. Et le ti, c'est qu'est-ce ? Hein, qu'est-ce que c'est ? Alors, bon, qu'est-ce que c'est ? En quoi ? D'où ? En vue de quoi? Et puis, il y a une cinquième interrogation, d'une certaine manière, sur le modèle de quoi? Voilà les cinq grandes interrogations de la connaissance spéculative. Il y a d'autres interrogations de la connaissance pratique. Dans l'ordre prudentiel. Dans l'ordre prudentiel, quand vous voulez agir, quand vous avez un besoin d'agir, vous posez encore d'autres questions. Vous posez quand faut-il agir ? Ça ne vient pas dans la connaissance spéculative. Quand faut-il agir? Où faut-il agir? Vous voyez, quand on veut mener une stratégie, il faut savoir à quel moment il faut envoyer le premier boulet de canon. D'où il faut l'envoyer? C'est quand même très important. Oui. Et ça, c'est la connaissance de l'agir ou du facteur. Ici, je regarde uniquement la connaissance spéculative, puisque nous sommes en philosophie première. Donc, c'est la connaissance spéculative que nous devons regarder. C'est une connaissance spéculative, la philosophie première, la métaphysique. Alors, qu'est-ce? Quand j'interroge sur le qu'est-ce que c'est que cette chose? Tiesti, qu'est-ce que c'est que cette chose? Quand j'interroge sur le qu'est-ce que c'est que cette chose? Je veux savoir la détermination première, la détermination première, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, cette détermination première, ça peut être une détermination, vous voyez, des catégories. Les catégories me donnent une détermination. Mais ça peut être aussi au-delà des catégories. Quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que le bien? C'est une interrogation donc fondamentale. Et on dira qu'à cette interrogation va correspondre la découverte de la cause selon la forme. C'est la cause selon la forme, c'est-à-dire la source de toutes les déterminations. La cause, le principe. J'interroge pour découvrir les principes, pour découvrir les sources, pour découvrir ce qu'il y a de premier. C'est ça qui est intéressant. J'interroge pour dépasser l'aspect descriptif. Dans l'aspect descriptif, je n'interroge pas. Le poète n'interroge pas, il décrit. Mais c'est quand je vais aller plus loin que l'interrogation. Alors je veux analyser et découvrir ce qu'il y a de premier. Et c'est ce que je découvre sous le point de vue de l'interrogation. L'interrogation, je vous ai dit, c'est l'intelligence qui est tendue vers une orientation. L'intelligence est orientée de telle manière, elle interroge. Qu'est-ce? L'intelligence interroge en quoi? Alors ça, c'est découvrir la matière. En quoi est fait cette statue? En quoi est fait ce petit meuble? En bois. Vous voyez? Je cherche en quoi. Je cherche la matière, le bois. Vous savez qu'en grec, bois et matière, c'est le même mot. Où est? D'où l'origine. D'où ça vient? C'est l'origine. Il faut savoir l'origine des choses. Et en vue de quoi? C'est la fin. En vue de quoi? En vue de quoi? Et quand vous voyez un outil extraordinairement perfectionné, en vue de quoi? C'est pourquoi? Vous dites tout de suite, pourquoi ça? J'avais pas compris. En vue de quoi? C'est la fin. Et puis, sur le modèle de quoi, c'est le point de vue de la cause exemplaire. C'est le modèle, c'est l'exemplaire. Vous savez la définition que donnent les stoïciens du philosophe? Nati sunt ut exemplar. Cette définition est extraordinaire. Ils sont nés pour être des exemples. Ou d'exemple. C'est la causalité sur le modèle de quoi. Puis alors vous pouvez ajouter une dernière interrogation, le comment. C'est intéressant parce que vous savez bien qu'Auguste Comte oppose le pourquoi de la finalité au comment du positiviste. Et c'est encore très actuel, hein, cette opposition entre le pourquoi et le comment. Le comment en grec, le pose. Et c'est vrai, il y a comme deux grandes interrogations. Hein. Le pourquoi et le pose. Le pose, c'est le comment. Comment réaliser cette chose? Comment faire pour réaliser telle ou telle chose particulière? C'est le comment. Vous voyez, quand vous goûtez un excellent gâteau, et vous demandez, mais comment ça a été fait? Quelles sont les manières de faire les choses? Vous voyez, c'est le comment. Le gosse, quand il voit une montre et qu'il se met à dévisser tous les écrous, il se dit après, comment la remonter? C'est le comment. C'est très important, le comment. Vous voyez? Alors, Auguste Comte oppose, c'est intéressant, pour dire, il oppose le pourquoi de la finalité. En réalité, le pourquoi, regarde, les quatre causes. Mais c'est le pourquoi de la finalité qui est le pourquoi du pourquoi. C'est évident que c'est le pourquoi au carré, c'est le pourquoi le plus fort, la finalité. En vue de quoi, cette chose? Pourquoi cette chose existe-t-elle? En vue de quoi? Et le comment du positivisme pour nous faire comprendre que la connaissance scientifique porte sur le comment, c'est-à-dire sur l'ordre qui existe entre ce qui est antérieur et ce qui est postérieur. L'ordre de ce qui est antérieur. Pour que cette réalité puisse apparaître, il faut nécessairement qu'il y ait cette réalité avant. C'est cet ordre-là. Et ça, c'est l'ordre du comment. Alors, c'est important de réfléchir là-dessus. Hein. C'est important de se réfléchir là-dessus pour essayer de comprendre si, de fait, nous avons bien là toutes les interrogations. Oui, c'est intéressant, c'est un inventaire de ce que c'est que l'intelligence. Les appétits de l'intelligence. Vous voyez que ces appétits de l'intelligence ne sont pas uniques. L'intelligence n'est pas uniquement dans un unique aspect. Et quand on interroge que d'une seule façon, ordinairement, on s'entête. C'est un petit procédé merveilleux pour travailler, ça. Quand vous cherchez quelque chose, mais posez-vous diverses interrogations. Parce que quelquefois, vous êtes devant. Il n'y a pas d'issue, je ne vois pas. Reprenez le problème d'une autre manière. Et de cette manière, vous arrivez à le découvrir différemment. Vous voyez, au fond, l'intelligence a des perspectives différentes. Quand vous regardez une petite église romane qui vous intéresse et que vous aimez, vous la regardez sous diverses perspectives. Vous ne la regardez pas que d'une seule perspective. Heidegger appelle ça les clairières. L'ichtung, n'est-ce pas? La manière différente dont on regarde. C'est très beau, du reste, et c'est très vrai. Quand on regarde une seule réalité dite au centre, je peux la regarder de cette manière-là. Et puis pour nous, il y a encore un vol, il y a le vol aérien. C'est encore une nouvelle manière de regarder les choses. Il y a diverses perspectives. Pourquoi y a-t-il diverses perspectives? Pourquoi les pourquoi de l'intelligence? Il faut se poser la question, c'est aussi intéressant. Est-ce que ces pourquoi de l'intelligence nous donnent vraiment une structure des appétits de l'intelligence? Ou est-ce qu'Aristote a découvert ça au hasard? C'est le hasard qui me donne ces diverses interrogations, mais au fond, je pourrais en donner d'autres. Ce qui est très curieux, c'est que depuis Aristote, on n'a pas donné d'autres. Je sais bien que les philosophes sont paresseux. Alors, quand on a donné certaines, on répète. Mais il faut se demander le pourquoi de cela. Alors, ça, c'est une question critique. C'est une question très, très fondamentale. Se demander pourquoi il y a ces diverses interrogations. Nous avons vu précédemment que l'interrogation naît de l'admiration. Voilà la source. Donc, s'il y a diverses manières d'admirer, il y aura diverses interrogations d'intelligence. Et cette admiration, ça provient de l'expérience. Ah, je suis sur la piste, là. Je commence à comprendre.
qu'il y a divers types d'expériences. Pourquoi ?
Parce que l'expérience externe, nous savons ce que c'est l'intelligence liée aux sensations. Or, vous avez 5 sensations. Tiens, c'est curieux.
Il y a 5 sensations et vous avez 5 interrogations. Là, je vous mets sous la piste. Vous avez 5 manières de toucher une réalité.
Je dis bien de toucher une réalité. Vous la voyez, vous la sentez.
Et certaines personnes, elles ne sont satisfaites que quand elles ont mis leur nez dessus.
Autrement, c'est impossible qu'ils ne connaissent pas.
Il faut connaître. Il faut sentir. Et d'autres, c'est manger. C'est manger, c'est un réalisme particulier. D'autres, voir. Pour chacun d'entre nous, voyez, ça c'est qui est très intéressant à voir, parce que pour chacun d'entre nous, il y a un sens que nous aimons le plus.
Je ne vais pas faire des aveux ici, mais c'est intéressant. Parce que pour certains, le sens le plus développé, avec l'intelligence,
va faire nécessairement que la première chose qu'ils regarderont dans la réalité, c'est l'aspect visuel. Puis il y a des gens, c'est l'odorat. Très développé l'odorat.
Extraordinaire,
ils sont maniaques de l'odorat. C'est extraordinaire, c'est l'odorat qui compte. Ils ont le nez creux. Et d'autres, c'est Louis. Ça, ils entendent avec une espèce d'acuité extraordinaire. Je connaissais quelqu'un qui avait une acuité d'ouïe en entendant les vers ronger le bois. Et c'était pas imaginatif. On regardait, on voyait en effet. Le ver ronge le bois, les vers. Ça fait du bruit, un ver qui ronge le bois. D'habitude, on ne l'entend pas, on ne fait pas attention.
Entendez, l'ouïe. Il y a une acuité d'ouïe, une acuité visuelle, une acuité du toucher. Très différente.
Alors, c'est très curieux, chacun d'entre nous, hein, si on pouvait mesurer ça.
Ce serait très intéressant, du reste. On ne peut pas le mesurer, parce que c'est qualitatif. Mais c'est l'intelligence qui, par le fait même, est liée avec tel ou tel sens.
Eh bien, du fait même que l'intelligence est liée, par exemple, avec le sens de l'ouïe ou de l'œil, il y aura une admiration différente. Il y aura un pli de l'intelligence qui va se faire par telle ou telle interrogation. Eh bien, je suis persuadé qu'on peut rendre compte, donc justifier philosophiquement, par un point de vue critique, les 5 interrogations par les 5 sens. C'est-à-dire les plis de l'intelligence. Il faut le faire de façon très astucieuse. Hein. Vous comprenez bien, c'est de façon très astucieuse qu'il faut faire ça. Il faut comprendre que chacun des touchés de l'intelligence vis-à-vis de la réalité suscite du côté de l'intelligence quelque chose de particulier. Il ne faut pas croire du tout que les 5 interrogations correspondent à quelque chose. Aristote a dit ça, on le répète. Pas du tout. Hein. C'est l'intelligence incarnée. Nous sommes des intelligences incarnées. Nous sommes des intelligences qui mendions notre bien à travers le sens. Saint Thomas n'hésite pas de le dire. Hein. Tout ce qui passe dans l'intelligence est passé par les sens. Parce que nous sommes une intelligence qui progresse grâce aux sensations. Et si nous sommes plus ou moins éveillés du côté de telle ou telle sensation, l'intelligence, par le fait même, aura un pli particulier. Alors c'est très facile de comprendre certaines interrogations. Hein. C'est très facile. Je vous en donne quelques-unes, vous n'êtes pas d'accord, vous chercherez. Parce que c'est intéressant à voir.
Bien, le qu'est-ce, c'est la détermination. C'est donc l'intelligence et l'œil. C'est la vision. Le pli de l'intelligence lié à la vision, lié à la lumière. C'est très intéressant. C'est la lumière. La lumière qu'est-ce ? L'intelligence est liée au toucher. C'est la matière, ça c'est bien évident.
La matière, vous ne la connaissez qu'en la touchant.
C'est un touchant de toucher. Vous la connaissez. Mais quand vous voyez une statue, une belle statue, hein, instinctivement vous voulez la toucher. Quand vous voyez un beau meuble, instinctivement vous le caressez. C'est extraordinaire ça. On veut toucher une statue. Parce que on sait très bien qu'on ne va connaître une statue qu'en la touchant. Il y a quelque chose de particulier. La matière se dévoile grâce au toucher. En quoi? Alors, ici, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile. L'origine, c'est Louis. C'est Louis. Les gens, de la, c'est le rythme, hein, la musique, le rythme, c'est l'origine. Et la fin, ah, c'est l'odorat.
C'est la fin, c'est l'odorat.
Et sur un modèle de poids, c'est doux.
Il y a des plis de l'intelligence qui font que l'intelligence va se développer différemment selon son alliance avec les différents sens. Or, nous n'avons pas le droit, quand nous sommes capables de pouvoir connaître une chose sous les différentes sensations, nous devons, par les différents contacts, nous devons interroger. Alors, c'est bien évident que, même si je n'ai pas cette expérience, parce que dans mon expérience du toucher, j'ai en même temps tout en même temps, mais il y a quand même quelque chose qui domine. Il y a quelque chose qui domine, toujours. Et il y a donc une interrogation qui domine. Et alors, le comment, ah, ça, c'est l'imaginaire. C'est l'imagination au service de l'intelligence. C'est l'imagination au service de l'intelligence, parce que c'est par le point de vue du possible. Et le comment, c'est relire au possible. C'est reconstruire le monde. Je veux reconstruire le monde. Comment le monde s'est-il construit? Comment l'évangile de Saint Jean s'est-il construit? Comment le Pentateuque s'est-il construit? C'est le comment, c'est pas le pourquoi. Alors ça, c'est revenir à l'ordre du possible. C'est l'imaginaire. L'imaginaire me remonte dans le possible. Pour découvrir dans l'imaginaire un ordre possible. Et alors, il faudrait comprendre comment il y a un comment des diverses interrogations. C'est curieux. Le comment est relié de façon très particulière à l'origine. Très particulière. Le comment est relié aussi sur le modèle à la matière et la caisse. Mais il n'y a pas de comment pour la finalité. C'est pour ça qu'il y a une rivalité particulière entre la finalité et le comment. C'est quelqu'un qui était à l'ONU, qui était très longtemps à l'ONU, et qui disait que c'était très curieux de voir les interrogations différentes de l'Occident et de l'Orient. De l'extrême Occident et de l'extrême Orient. Alors les interrogations étaient très différentes. Du côté de l'extrême Orient, c'était toujours en vue de quoi? Et du côté de l'extrême Occident, comment? C'est intéressant parce que c'est vrai, il y a des polarisations différentes, il y a des soucis différents, il y a des manières différentes de regarder la même réalité. Savoir comment, parce que par le comment vous dominez, en vue de quoi vous respectez, vous contemplez. Tandis que par le comment vous dominez, si vous ne savez pas le comment, vous ne dominerez jamais. Comment réaliser une chose pour pouvoir justement gouverner? Bon, alors, une fois qu'on a ce petit tableau très simple, il faut y réfléchir, hein, parce que je vous le donne comme ça, il faudrait le redécouvrir et puis comprendre que nous sommes là en face d'une structure de la vie de l'intelligence. Oui, j'aime bien de commencer par les interrogations. Ne regardez pas les causalités. La scolastique nous donne les quatre causes, et puis on ne sait pas d'où ça vient, ça nous tombe du ciel, les quatre causes. Mais les quatre causes, c'est tout simplement une intelligence qui cherche. C'est une intelligence qui cherche. Alors, c'est une intelligence qui cherche parce qu'elle interroge. Et elle découvre alors, j'allais dire, les quatre points cardinaux, vous voyez, ou les cinq, puisqu'il y en a cinq. Les cinq qui sont les points, les principes. Ce au-delà de quoi je ne peux plus aller. Ce au-delà de quoi je ne peux plus analyser. C'est ça une cause. Un principe, c'est ce au-delà de quoi je ne peux plus analyser. Alors je m'arrête. Je m'arrête devant un principe, c'est évident. Je ne peux plus analyser. Une cause, je ne peux plus analyser. C'est ce qui est au-delà de l'analyse, ce qui est au-delà de ce que je peux analyser. Alors je m'arrête. Il y a un premier dans l'ordre de la détermination. Il y a un premier dans l'ordre de la détermination, la matière. Il y a un premier dans l'ordre de l'origine. Il y a un ultime dans l'ordre de la fin. Il y a un premier dans l'ordre de l'exemplaire. C'est ça les causes. Oui, cette fameuse chose est quatre causes. Une fois qu'on a saisi ça, je peux me demander alors, au point de vue proprement philosophique, je vais poser maintenant la question, au niveau philosophique premier, qu'est-ce que c'est que l'être? qu'est-ce que c'est que l'être ?
Quand je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'être, je veux savoir quelle est la source de toutes les déterminations que je découvre dans l'être. La source de toutes les déterminations que je trouve dans l'être. Or, j'ai trouvé dans la réalité existante, donc dans l'être existant, j'ai trouvé les 10 déterminations catégoriales. Ce sont 10 déterminations. Les catégories, ce sont 10 déterminations de la réalité existante. Je vais donc me poser la question, puisque ces 10, tout existe. La quantité existe, la qualité existe, la relation existe, l'action existe. Alors, toutes, ce sont des modalités de l'être. C'est toutes des déterminations de l'être. Alors, si je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous comprenez très bien que je ne peux pas répondre, l'être, c'est la quantité. Mais non. Parce que la qualité existe aussi, et la qualité n'est pas la quantité. Donc, l'être, ce n'est pas la quantité. L'être, ce n'est pas la qualité. L'être, ce n'est pas la relation. L'être, ce n'est pas la passion. L'être, ce n'est pas l'action. L'être, ce n'est pas le lieu. Vous voyez, je nie toutes les catégories. Et ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça. C'est déjà beaucoup de comprendre ça. J'ai beaucoup de comprendre que l'être, quand je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'être, c'est l'au-delà des 10 catégories. Alors à ce moment-là, je peux dire que l'être, c'est le tout. C'est l'au-delà des 10 catégories. Puisque les catégories, c'est quelque chose de déterminé, c'est quelque chose de bien précis, donc c'est l'au-delà de toutes les catégories. C'est vrai, c'est juste de dire ça. C'est un au-delà des 10 catégories, c'est un métacatégorial. L'être est métacatégorial. C'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les catégories. Alors, qu'est-ce qui est au-dessus de toutes les catégories ? Ah, nous avons vu. C'est la substance première. C'est Pierre. Nous avons vu que la substance première est d'une certaine manière un au-delà des catégories, puisque toutes les catégories sont dites de cette substance première. La substance première, c'est le sujet. C'est le sujet auquel tout le reste est attribué. C'est le sujet. Et ce qui est très curieux, hein, je le dis en passant, si je regarde dans la scolastique décadente, la scolastique décadente, elle est très vite décadente. Hein, la scolastique décadente, elle est décadente à partir du XIVe siècle. On en a sur le dos, hein. Scolastique décadente. Eh bien, si je regarde dans la scolastique décadente, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je vois que l'être est dit la substance et que la substance est le sujet. Et c'est vrai, dans les bons manuels Thomistes, vous voyez que la substance est le sujet. Vous voyez qu'à ce moment-là, et ça c'est très important à saisir, vous voyez qu'à ce moment-là, j'identifie l'être avec la substance première, avec le sujet. Aristote dit à propos des catégories. Toutes les catégories sont dites de la substance première de Pierre. En grec, on dira le todéti. Ce qui est cette réalité particulière et individuelle, c'est Pierre. C'est sûr que Pierre existe d'une manière très particulière au point de vue de son existence. Hein. D'une certaine manière, c'est Pierre qui existe. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas le lieu. Pierre seul existe. Donc il y a quelque chose de juste de dire ça. Il y a un petit quelque chose de juste du côté de l'existentialisme. C'est vrai que c'est Pierre qui existe. C'est le sujet qui existe. Donc c'est tout à fait normal que quand je me mets dans une perspective existentialiste, je regarde que l'être se ramène à Pierre. C'est donc l'individu. L'individu concret. L'individu concret, l'être concret, c'est ça l'être. Parce que c'est le seul qui existe. Alors vous comprenez qu'à ce moment-là, si j'identifie l'être avec la substance première, je suis obligé de dire que les catégories n'existent plus. Puisque les catégories ne sont pas la substance première. Mais dans l'existentialisme, c'est le danger, hein, c'est de plus regarder les déterminations particulières. De ne plus regarder les déterminations spéciales, parce que j'ai la tendance de dire seul l'individu existe, seul le sujet existe. Si l'être, quand je pose la question, qu'est-ce l'être, hein, n'oubliez jamais la question, qu'est-ce l'être? Je dis donc, qu'est-ce l'être? Ah, substance première, parce que c'est ça qui est au-delà de toutes les catégories. Et vous avez dit tout à l'heure que l'être est au-delà de toutes les catégories. Ah, attention. Quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Je ne peux pas m'arrêter à la substance première. Je dis bien, la substance première, elle existe, mais ce n'est pas l'être. Donc ce n'est pas la substance première qui va me faire découvrir ce que c'est que l'être, puisque la substance première, c'est le ceci. Or, nous avons vu tout à l'heure, et nous l'avons dit, que lorsque nous posons l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, nous séparons est, ceci est, du ceci. Et donc je ne peux pas retomber dans ceci. Autrement, je dirais, alors quoi, serpent qui meurt sa queue, vous voyez ? Exactement ça. Je suis parti du ceci est. J'ai mis que est autre chose que le ceci. Je l'ai mis en pleine lumière en disant qu'est-ce que c'est que l'être. Et il dit l'être, ah c'est la substance première, donc le ceci. Non, c'est impossible. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Parce que si je dis que l'être, c'est la substance première, toutes les autres déterminations de l'être n'existent plus comme être. Il faut donc comprendre que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» m'oblige de dépasser la distinction substance première, substance seconde. D'aller au-delà. L'être n'est pas premièrement le sujet. L'être n'est pas premièrement Pierre qui existe. Pierre existe, il est bien de l'être, mais il n'est pas l'être. Il n'est pas le tiesti de l'être. Ça, c'est très très important à comprendre. Hein. C'est pas commode, parce que c'est assez subtil, comme toujours, dès qu'on entre en métaphysique. C'est assez subtil. Mais c'est très important à comprendre que la distinction qui se fait, substance première, Pierre, substance seconde, homme, ou qualité ou quantité, peu importe, enfin, les catégories si vous voulez. Les catégories sont relatives à substance première. Quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être, je me situe au-delà de la substance première. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'arrêter à la substance première. Si je m'arrête à la substance première en disant que la substance première c'est l'être, alors à ce moment-là, toutes les autres catégories, la substance seconde et tout le reste, ça n'existe pas. C'est du non-être, puisque c'est opposé à ça. Alors, je dois aller plus loin. Je dois donc essayer de saisir, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je dois donc essayer de saisir, qu'est-ce qui est au-delà de la substance première ? Qu'est-ce qui est à la racine de cela ? Et c'est en essayant de saisir ce qui est à la racine de la substance première et de la substance seconde, en opposant les deux, et en comprenant que l'être implique les deux, que je découvre alors le principe premier, le principe radical, le principe propre de la substance première et de la substance seconde. Et je découvre alors l'ousia, c'est-à-dire la substance, au niveau de l'être, et non pas au niveau des catégories. Je découvre la substance au niveau de l'être. Qu'est-ce que c'est que la substance ? Principe radical selon la forme de ce qui est. C'est la source de toutes les déterminations. J'y reviendrai la fois prochaine, ça, parce que c'est important, mais au moins de saisir que la première interrogation métaphysique me conduit à découvrir la substance. Et la substance, ce n'est pas le sujet. La substance, ce n'est pas la substance seconde, c'est-à-dire l'essence. La substance, c'est ni l'existence, ni l'essence. C'est pas tellement, parce que c'est l'être. L'être, il se divise en existence et en essence. L'être, il est plus que cela. Il est à la racine des deux. Et donc, c'est ce qui est à la racine des deux. C'est ça qui est source de toutes les déterminations. C'est ça qui est source de la substance première et du sujet.